Alors, j'aimerais lire un passage avec vous dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13, versets 11 à 13. Là, c'est deux chroniques. Alors, c'est une fin assez classique d'une épître de Paul. Paul salue et il termine jamais en saluant juste en disant « Bon, bah, salut, hein, à bientôt. » Il y a toujours une fin, il y a toujours un enseignement pour que les gens méditent encore après. Voilà comment Paul termine cette lettre. « Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. Travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, tous les saints vous saluent. » Et c'est là où on va s'arrêter sur cette partie du texte. Vas-y, avance. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors Paul y termine en disant « Aimez-vous, voilà, soyez remplis d'amour fraternel, aimez-vous, demeurez en paix, saluez-vous les uns les autres, etc. » Et puis à la fin, il termine toujours voilà, par des salutations. Et il y a ce dernier verset qu'on va vraiment bien observer ce matin. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Ce qui frappe ici, si vous êtes attentif, qu'est-ce qu'on voit ? La Trinité. Merci. C'est là où je vais détailler ce matin. Ce matin, nous allons voir dans la doctrine de Dieu la Trinité, cette notion de Trinité qui n'est pas toujours facile à comprendre. C'est vrai que c'est un Dieu, trois personnes. On a du mal avec ça. On a du mal. Si vous avez des enfants, vos enfants vous ressemblent. Mais ce n'est pas vous quand même. Alors, c'est un peu difficile à appréhender. Un Dieu, trois personnes. Alors, trois personnes, mais un seul Dieu. C'est ce qu'on va voir. La Bible nous dit que donc Dieu est trinitaire en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. On le voit dès les premiers versets de la Genèse. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 1, verset 1 et verset 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Premier verset, Dieu existe, il est là. Tout de suite, dès le début de la Bible, au commencement, Dieu est là. La terre n'était que chaos et vide, verset 2, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Verset 1, verset 2, on a déjà Dieu et le Saint-Esprit qui sont déjà annoncés clairement. Dans la Genèse, assez rapidement, il y a aussi des mentions du Fils. Mais c'est plus sous-entendu parce que pour l'instant, la révélation ne va pas être complète, elle va être progressive. Regardez avec moi chapitre 3 dans la Genèse, versets 14 et 15. Là, il s'est passé un événement, il s'est passé cette histoire que même si vous n'êtes pas familier avec la Bible, vous avez entendu. Le serpent qui tente Ève et qui lui fait manger le fruit, hein, enfin, il ne lui met pas dans la bouche, hein, c'est elle qui consciemment le mange. Et puis Dieu va être au courant de cette situation, donc il va intervenir. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Alors il y a un terme technique qui s'appelle le proto-évangile. Vous pouvez oublier ce terme. C'est ce qui va annoncer l'évangile plus tard. Il y a la première mention d'une descendance de la femme qui va remporter une victoire contre le serpent. Et le serpent, l'Apocalypse nous dira que c'est le diable. Hein. C'est vraiment lui ici. Christ vaincra le serpent. Voilà. Sa descendance t'écrasera la tête. Même si, au départ, c'est quand même Satan qui va remporter la première bataille. Hein. À la croix, tu lui blesseras le talon. Première bataille remportée par Satan, mais la victoire finale reviendra à Jésus-Christ. Il y a une autre partie dans la Genèse où on peut voir aussi cette notion de trinité, de pluralité de Dieu. C'est dans Genèse 1, toujours, au verset 26. « Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ce qui apparaît dans la première partie de la Genèse, au moment de la création, Dieu va créer la terre, les astres, les plantes, les animaux, etc. Et à chaque fois, c'est indiqué, Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Et il y a des luminaires. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux. Et c'est ce qui arrive. Dieu dit voilà, que la terre produise des animaux vivants, Dieu fit les animaux, etc. Puis, alors c'est toujours pareil, c'est Dieu dit qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait. Et quand c'est l'homme, il y a quelque chose de différent, c'est Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu il pourrait dire que je fasse l'homme à mon image, à ma ressemblance. Non, il est au pluriel. Et dans les textes, dans le texte hébreu originel, on a bien cette notion de pluriel. Hein. Ce n'est pas des chrétiens qui auraient manipulé pour faire apparaître une trinité, etc. Non, non, dans le texte original, il y a bien une pluralité à ce niveau-là. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu n'est pas tout seul. Et on l'avait vu dès les deux premiers versets, il y avait déjà le Père, le Saint-Esprit, et on voit déjà le Fils aussi, on a vu tout à l'heure avec le serpent. Il y a un autre passage dans l'Ancien Testament aussi où il y a une pluralité. On va avancer un petit peu sur cette notion de pluriel. Regardez avec moi, c'est dans une prophétie d'Ésaïe. On avance un petit peu dans l'histoire de la Bible et du peuple juif. Au chapitre 6, verset 8. Donc Ésaïe, le prophète, reçoit une prophétie assez forte. Et il y a Dieu qui dit à un moment, « J'ai entendu le Seigneur dire... Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. » C'est Dieu qui parle, mais il parle à la première personne du pluriel. Qui marchera pour nous ? Donc on voit bien que Dieu, là aussi, il est souverain, c'est lui, mais il parle parfois à la première personne du pluriel. Donc on peut être étonné pourquoi il ne parle pas à la première personne du singulier. Est-ce qu'il est un, mais tu vas voir, en fonction du message, tu vas voir qu'il n'est surtout pas tout seul. Dieu est un, mais surtout Dieu n'est pas tout seul. Un seul Dieu, trois personnes. Pour vous, ça, c'est facile à appréhender ça ou pas ? Ah, c'est pas évident, hein ? Parce que nous, on est dans notre corps et ça nous dépasse un peu. Comment on peut être un en trois ? Il n'y a pas que nous qui nous posons la question, les amis. Hein. Toutes les autres religions monothéistes aussi, hein, les juifs et les musulmans, ils ont un problème avec ce côté pluriel. Pour les musulmans, Dieu ne peut pas avoir de relation avec une femme. C'est impossible parce qu'il est saint. Donc, il ne peut pas avoir de fils. Voilà, la logique, c'est ça. Les juifs aussi hein, rejettent l'idée du fils, évidemment, on le sait. Hein, les juifs ne reconnaissent pas Jésus comme fils de Dieu. Prophète, d'accord, mais pas au-delà. Fils de Dieu, il y a une barrière. Ce n'est pas possible. Pourtant, on voit quand même des versets où il est employé, qui sont employés au pluriel. Hein. Regardez dans un autre passage de l'Ancien Testament, la mention du Fils, elle n'est pas toujours sous-entendue dans l'Ancien Testament. Hein. Il y a des passages où, clairement, c'est très explicite. Regardez, dans Proverbes, chapitre 30, verset 4. Verset 4, Proverbes 30. Ça paraît, hein, si vous voulez, sur le tableau, mais je reprends un petit détail également. Hop. Alors, regardez ici. Qui est monté au ciel et qui en est descendu ? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains ? Qui a serré l'eau dans son manteau ? Qui a fixé les limites de la terre ? Quel est son nom et quel est le nom de son fils ? Le sais-tu ? Il y a bien un fils là quand même, non ? Parce que qui a fait ça ? Qui est monté au ciel ? Qui en est descendu ? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains ? Qui a serré l'eau dans son manteau ? Qui a fixé les limites de la terre ? C'est Dieu. Quel est son nom et quel est le nom de son fils ? Il y a bien un fils, là. Alors les juifs disent le fils, c'est Israël, etc. Ah ouais, mais si on prend le premier verset de 30, Proverbe 30, on lit « Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et Purakal, a priori des juifs. » Donc, il ne parle pas des non-juifs, il parle à des juifs, là. Donc, on sort du contexte si on dit le fils, c'est Israël à ce moment-là. C'est assez clair, non? La notion du fils, là, enfin, ça apparaît, quoi. Je veux dire, c'est quand même irréfutable. On le voit encore une autre fois dans le psaume, vers chapitre 2. Livre des psaumes, deuxième, versets 10 à 12. C'est sur la fin des temps. Là, c'est vraiment jugement dernier, dernière bataille, la fin de l'histoire, la fin de l'humanité. Si vous ne savez pas ce qui va se passer dans la fin des temps, lisez l'Apocalypse, lisez votre Bible, lisez l'Apocalypse, vous allez voir, même s'il y a beaucoup d'allégories, mais c'est malgré tout très clair. Et on lit au verset 10 et 12. « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Là, on est dans l'Ancien Testament. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, Dieu, là ? Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte. C'est qui, le Fils ?
Jésus.
Si c'est Israël, regardez la fin. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en Israël. Il y a un truc qui n'irait pas, là. Et je crois que les Juifs auraient l'honnêteté de reconnaître qu'ils sont bien loin d'être parfaits. Qui pourrait se confier dans un peuple pour avoir sa confiance, quoi. Je veux dire, même eux, par rapport à leur histoire, tout ce qui s'est passé, ils auraient l'honnêteté de le reconnaître. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite. Donc, un Père, Dieu créateur, son Esprit qui est une personne, et une troisième personne, le Fils. Je ne détaille pas dans le Nouveau Testament parce que c'est beaucoup plus simple et on le voit clairement avec la venue de Jésus-Christ, mais dans l'Ancien Testament, il y a déjà la notion du Fils qui apparaît clairement. Il y a la pluralité et la notion du Fils. On va voir encore un autre point. Regardez avec moi dans le livre des Nombres. C'est intéressant parce que voici comment Aaron et ses fils devaient bénir le peuple d'Israël. Dieu va dire à Aaron et à ses fils, qui seront les sacrificateurs, « Voici comment tu dois bénir le peuple d'Israël. » Vous allez voir que même là, la Trinité, elle apparaît. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 6, versets 23 à 27. Regardez, soyez vigilants, la bénédiction telle que Dieu la présente. « Transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Qu'est-ce qu'on voit ici ? Trois parties. Une bénédiction triple. Trois fois, le Seigneur dit que l'Éternel te bénisse et te garde. Premièrement. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Deuxièmement, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Quand les sacrificateurs devaient bénir le peuple, il y avait trois parties. On peut voir aussi la Trinité qui apparaît là, quelque chose quand même. C'est aussi une façon pour le Seigneur d'éveiller la conscience de son peuple. Trois personnes. Alors, on voit un Dieu, trois personnes. Est-ce que vous avez souvenir d'un passage de la Bible où les trois personnes sont réunies en même temps ?
Jean.
Jean 1-1. Ouais. Ok. Vas-y, précise si tu veux bien. Ténèbres, etc. Le Fils, l'Esprit. Ouais, au début, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Ouais. Ouais. Il y a un épisode où vraiment... il se passe quelque chose, ils sont tous les trois réunis. Bravo. Baptême de Jésus. Bravo, Eddy. On va regarder. C'est dans Marc, chapitre 1, versets 9 à 11. Il y a un épisode là où les trois sont réunis. Il n'y a pas beaucoup dans la Bible, donc mentionnons celui-ci. Marc 3, verset... chapitre 1, pardon, versets 9 à 11. Si vous n'êtes pas familier avec l'histoire de Jésus, là, lisez les évangiles. Ouvrez votre Bible. L'Ancien Testament se termine. Le Nouveau Testament commence par les quatre évangiles. Si vous voulez tout connaître sur Jésus, c'est ces quatre livres-là qu'il faut lire en priorité. Et l'on voit ici le baptême de notre Seigneur. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Ici, il y a le fils, Jésus, qui vient pour se faire baptiser. Il y a l'esprit qui descend. Et il y a le Père qui parle. Et là, nous avons un passage où les trois sont bien réunis, bien la notion de la Trinité. Ce qui était jusqu'à présent caché, ce qui était jusqu'à présent sous forme d'ombre, apparaît clairement à la lumière à présent. Dieu se révèle dans ces trois personnes. Et dès le début du ministère de Jésus, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vont être ensemble à présent. Auparavant, c'était caché, le mystère caché de l'Église, mais il y a aussi ce mystère caché de trois personnes. L'Esprit était présent, mais de façon... dans l'Ancien Testament, on retrouve le Saint-Esprit. Mais il arrive, il repart. Voilà. Il arrive sur Saül, le premier roi d'Israël, puis un jour, il va quitter l'esprit, la conscience, on va dire, de Saül. Voilà, on pouvait perdre un peu cette notion-là, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui sont chrétiens, ils auront l'esprit, quoi qu'il en soit. On peut l'éteindre, mais on ne peut pas perdre son salut. Donc, trois personnes, un seul Dieu. Attention, ce n'est pas trois dieux différents. La Bible est bien monothéiste, elle n'est pas polythéiste. Il y a un seul Dieu, c'est un seul Dieu, mais il est en trois personnes. Trois personnes, un seul Dieu, mais également trois personnes, un attribut. Je reprends le verset qu'on a lu tout à l'heure, 2 Corinthiens 13, verset 13. On peut relire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors ici, dans ce passage, il y a un attribut par personne, au moins un. Jésus, c'est quoi ? Le Seigneur Jésus, c'est la grâce. Dieu, c'est l'amour. Et le Saint-Esprit ? La communion, c'est assez clair. Dieu dit des choses de façon concrète. Le Fils, c'est la grâce. Voilà. Vous savez que depuis que l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était sous la loi, avec la venue de Jésus, nous sommes dorénavant sous la grâce. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on disait, nous sommes en l'an de grâce 1274. Parce que c'était 1274 années depuis la naissance de Jésus-Christ, donc nous sommes sous la grâce. Un jour, c'est dommage, j'aurais dû y penser avant, je n'y pense que maintenant. J'ai une très vieille Bible ancienne à la maison, et dessus c'est marqué, il y a tout le décompte, voilà, l'an de grâce, la naissance du Seigneur, les civilisations, les antiquités, c'est merveilleux, un travail incroyable. En l'an de grâce. Grâce, ça signifie faveur imméritée. C'est quelque chose qui vous est offert et vous ne méritiez pas. Quelque chose qui nous est offert et que nous ne méritions pas. Et c'est vrai que ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, c'est une faveur qui est imméritée. Quand Dieu envoie son Fils sur la croix à mourir pour les péchés du monde, c'est une faveur imméritée. À partir de là, tous ceux qui acceptent le nom de Jésus et qui font de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur reçoivent leur pardon des péchés. C'est Jésus qui a payé sur la croix et ils ont la vie éternelle. Est-ce que c'est mérité ? Non. Est-ce que c'est une faveur ? Oui. Donc le Fils, c'est la grâce. C'est par lui que nous avons cette faveur imméritée. Scofield a dit « Sous la loi, Dieu exige de l'homme la justice. » Sous la loi, Dieu exige de l'homme la justice. L'homme doit être juste. Mais sous la grâce, il donne à l'homme la justice. C'est-à-dire que les hommes étaient sous la loi, ils ne pouvaient pas être justes. Ils peuvent seulement l'être par Jésus-Christ. Donc tant qu'ils étaient sous la loi, Dieu leur demandait la justice, mais à présent, il leur donne la justice par Jésus-Christ. Jésus, c'est la grâce, et Dieu, c'est l'amour. Alors, j'ai déjà prêché il y a 15 jours sur ce thème-là que j'avais développé. Si vous n'étiez pas présent, je vais me répéter un tout petit peu. Je vais juste vous rappeler ce qui avait été mentionné, c'est que Dieu est amour. Il a créé le monde et des créatures, mais il les aime aussi. Il ne les a pas livrés à eux-mêmes, il les aime. Et il y avait ce verset dans Jérémie 29 qui nous disait « En effet, c'est Dieu qui parle, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. » Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Le Seigneur a pour vous, mes amis, des projets. Mais pas des projets comme vous en avez peut-être. Vous avez des projets, on a tous plein de projets, quels qu'ils soient, plein ou pas beaucoup, mais en tout cas, on a toujours au moins des projets. Mais le Seigneur dit, moi j'ai des projets pour toi. Des projets de paix et d'amour. Et des projets de paix et non de malheur. C'est beau, hein ? Le Seigneur a des projets pour nous. Il a fait ses créatures, il a des projets, il a conçu des projets pour elles. Dieu est bon. C'est une preuve de son amour, mais la plus belle preuve de son amour, rappelez-vous, c'était en Jésus-Christ. Comment il a aimé le monde à tel point qu'il a donné son fils unique, Jean 3,16, c'est sa plus belle preuve d'amour. Alors, je ne répète pas tout le message, si vous voulez, depuis quelques semaines, on a les prédications en MP3 sur le site, donc ebbn.org, vous avez prédications, vous pouvez retrouver les messages. Regardons à présent le Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit, c'est quoi? Qu'est-ce qui le symbolise? La communion. Alors, le mot grec ici, alors ça ne va pas vous parler, moi non plus. Je ne parle pas grec, je n'ai pas étudié non plus, mais j'ai regardé. Koinonia, ça signifie partager quelque chose avec quelqu'un. Il est employé 20 fois dans le Nouveau Testament. Koinonia. Partager quelque chose avec quelqu'un. Dimanche dernier, on a fait notre première étude pour les couples. On était dans Genèse chapitre 1, on a vu vraiment les tout premiers versets, le plan de Dieu, on a, je crois, vu plein de choses qu'on n'avait vraiment pas vues auparavant, on était toujours une lecture parfois un peu superficielle. C'est là qu'on se rend compte que quand on scrute verset par verset, on s'est tous dit, hein, jamais vu ça. Pourtant, le verset, on prend l'impression de connaître le chapitre par cœur, ouais, bah non, il y a plein de choses qu'on ne voyait pas. On a vu le plan, vraiment le plan de Dieu dès le départ. Dieu a créé l'homme pour être en communion avec lui. Il a vraiment créé Adam pour avoir une communion avec cet homme-là, une relation avec lui. Puis en même temps, il a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient en communion aussi, tous les deux ensemble. Mais malheureusement, l'histoire était belle, mais rapidement, il y a l'ennemi qu'on a vu tout à l'heure qui va venir tout gâcher, qui va tenter la femme, qui va à son tour, qui va chuter, qui va faire chuter l'homme après elle. Et puis finalement, il y aura cette malédiction, mais il y aura surtout cette communion qui est brisée. Rien ne sera plus comme avant. Ce qui explique pourquoi on ne naît pas en parfaite relation avec Dieu. Quoi. On ne naît pas depuis tout petit, on a une relation avec le Seigneur qui est merveilleuse. Non, parce qu'il y a eu cette fracture à un moment qui doit être établie par cette descendance, voilà, par Jésus-Christ. Et on verra bientôt pour les couples qui viendront qu'est-ce que ça a changé dans la relation entre l'homme et la femme. La relation entre Adam et Ève au tout début n'est pas la même avant la chute qu'après. Et les conséquences pour aujourd'hui. Dieu va prendre l'initiative de renouer la relation. C'est Dieu qui va faire le geste. Il va arriver, il va dire à Adam, où es-tu? Il aurait pu, Dieu savait très bien ce qui s'était passé, il aurait pu dire, bon, maintenant c'est fini, je ne veux plus rien savoir, c'est terminé, tu n'as pas été fidèle, tu es chassé du jardin d'Éden, c'est terminé. Non, il l'appelle, il dit, où es-tu? Il vient à sa rencontre, il sait très bien ce qui s'est passé. Et c'est Dieu qui prend l'initiative, en fait, hein, de renouer ce contact. Alors, on l'a lu au tout début, dans la première partie du verset. Aujourd'hui, Dieu nous appelle justement cette communion du Saint-Esprit. Dieu nous appelle à être en communion les uns les autres, les amis. Hein. Il nous dit aussi, soyez en communion avec vous. Et je rappelle, le koinonia veut dire partager quelque chose avec quelqu'un. Hein. C'est bien que le Seigneur attend cela de nous. On va ouvrir encore nos Bibles dans Jean 13, versets 34 et 35. Qu'est-ce qui caractérise les disciples, justement, de Christ ? C'est Christ qui parle, donc il donne un enseignement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il est dit ici, aimez-vous comme vous aviez l'habitude de vous aimer les uns les autres? Non, il dit, si tu veux revenir juste avant... Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et comme le Seigneur nous a aimés, c'est... Il y a du niveau, hein. C'est tout là-haut, hein. C'est super exigeant, c'est sans faute, quoi. C'est quand Dieu aime, c'est d'une façon juste, bonne, sainte et parfaite. Je crois tous qu'on a beaucoup de travail à faire. Puis sur nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. On le prie, mais il faut le vivre aussi, hein. Ça c'est le plus difficile. Et cette communion, elle doit se faire dans le Saint-Esprit, mes amis. C'est ce qu'on a lu au chapitre, donc au tout début, en introduction, de Corinthiens 13, 13. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ça ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Si c'est par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. On n'a pas le cœur suffisamment pur pour cela. Ça doit se faire par le Saint-Esprit. Alors, trois personnes, un seul Dieu, trois personnes, un attribut. Mais aussi trois personnes... Un plan, une seule œuvre, on pourrait dire. Les trois, Père, Fils et Saint-Esprit, doivent être en nous. Attention, il y a le risque d'en écarter un ou deux, vous savez. Il y en a qui disent, moi je crois en Dieu. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Non, moi je crois en Dieu. Ah. Ok. Est-ce que c'est recevable? Est-ce que quelqu'un qui dit, moi je crois juste en Dieu, mais Christ, non. Mais par contre, moi je crois en Dieu, hein. J'ai toujours cru en Dieu depuis même encore plus petit que ça, peut-être même encore plus petit. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours cru en Dieu. Et pour eux, ça leur suffit. Tout va bien. Je crois en Dieu. Et puis comme disait Alain la semaine dernière, on ira tous au paradis, Dieu est amour, enfin voilà. Il y a cette croyance-là. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des autres religions aussi, hein. Le Fils, non. Dieu, oui, Saint-Esprit, peut-être. Avant de me convertir, j'étais catholique, le Saint-Esprit, j'ai aucune idée de ce que c'était. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas du tout partagé, donc... Ok, le Père, oui, le Fils, celui qui est en, tout ensanglanté au fond de la salle, plein de sang, ça, d'accord, je vois qui c'est. Le Père, ouais, celui qui est en pain là-haut, d'accord. Alors le Saint-Esprit, alors là, aucune idée, là. Il n'y a même pas de statue, il n'y a rien, on ne peut pas savoir, là, c'était le néant total. Est-ce qu'on peut être en bonne relation avec Dieu si on n'a pas le Fils? Alors, regardez avec moi. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 23. Quelqu'un qui dirait, moi je crois en Dieu, mais pas en Jésus-Christ. Voici un argument. 1 Jean, chapitre 2, verset 23. Tout argument, il y a une réponse dans la Bible. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Si on croit en Jésus-Christ, le Père, on l'a. Parce que de toute façon, c'est lié, le Père et le Fils. Par contre, celui qui nie le Fils n'a pas le Père. Donc quelqu'un qui dit, moi je crois en Dieu, mais Jésus-Christ, ouais, personnage de l'histoire ou prophète, celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. On ne peut pas avoir le Père sans le Fils. Impossible. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin au Père, ça passe par le Fils. Et il n'y a pas de détour. GPS, des fois, vous savez, vous allez programmer votre GPS, vous allez à... Valérie, je ne sais pas où, qui vous dit, ah, bouchon itinéraire bis, est-ce que vous voulez prendre l'itinéraire bis? Ouais, ok, je vais gagner du temps. Mais pour aller à Dieu, il n'y a pas d'itinéraire bis, les amis. Il n'y en a qu'un. Il n'y a pas de bouchon, hein. Je vous rassure. Dieu a tout prévu. Le chemin est étroit, mais il n'y a jamais de bouchon. Voilà, c'est toujours fluide et voilà. On peut toujours y aller, il n'y a aucun problème. Donc attention, quelqu'un qui vous dit, moi je crois en Dieu, mais non, Jésus, non. Vous pouvez lui lire ce verset en disant attention, hein, la Bible dit si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, il faut que tu ouvres les yeux. Là. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Père. Impossible. Alors attention, hein, j'ai dit tout à l'heure, les catholiques, le Saint-Esprit, c'est pas clair, je crois, pour eux, pas l'impression. Mais attention, parce que dans nos milieux évangéliques baptistes, souvent aussi, on pourrait avoir tendance à écarter une des personnes. Parce que vous savez, c'est laquelle? Saint-Esprit. Souvent, le Saint-Esprit, c'est un peu le problème, parce qu'il y a des églises, c'est vraiment... Alors, eux, leur problème, c'est que c'est que le Saint-Esprit, presque. Vous arrivez, c'est le Saint-Esprit, la louange, c'est le Saint-Esprit, les prières, c'est le Saint-Esprit, le message, c'est le Saint-Esprit, et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas sauvé. J'ai pas lu ça dans la Bible. Eux, c'est tout pour le Saint-Esprit. Donc, le Père et le Fils, je veux pas dire qu'ils le mettent à part, qu'ils l'occultent, mais c'est pas la personne numéro une. C'est le Saint-Esprit d'abord. Alors... Ça, c'est eux. Mais nous, ça pourrait être le Saint-Esprit. Alors du coup, comme on n'a pas trop envie d'aborder ces points-là, bah bon, on n'en parle pas trop. Quoi. On parle beaucoup du Père, beaucoup du Fils, et puis le Saint-Esprit, des fois, on met un peu sous cloche. Mais un Dieu en trois personnes. Donc il faut annoncer les trois. Les trois font partie du plan de Dieu. C'est un Dieu en trois personnes. Donc, comme disait Alain, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Quoi. Voilà. Il est là. Il ne faut pas l'éteindre. Il ne faut pas l'occulter. C'est une personne de la Bible. Il est triste, il pleure, on peut l'attrister, etc., comme je viens de dire. Donc c'est une vraie personne, il fait partie de Dieu lui-même, donc ne l'occultons pas. Donc les trois doivent être en nous, et les trois travaillent ensemble. Merveilleux aussi de voir comment le Père, le Fils, le Saint-Esprit, si je puis dire, main dans la main, même si l'image est mauvaise, hein. Main dans la main. Regardez avec moi dans Jean 16, versets 13 et 15, ce que nous dit le Seigneur. Jean chapitre 16, évangile, versets 13 à 15. Jésus annonce sa mort. Quand je dis Dieu, c'est pas un lapsus. Jésus annonce sa mort. Mais il dit, voilà, voilà ce qui va se passer. Je vais partir, mais il y a le défenseur, un défenseur qui va venir. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, donc c'est le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qui vous l'annoncera. Donc Jésus dit, je vais partir. Mais il vaut mieux pour vous que je parte, parce que sinon, il n'y aurait pas le Saint-Esprit. Donc je vais partir, c'est le plan de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit va prendre de ce qui est à moi et il va vous le donner. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il va prendre de ce qui est à moi, parce que tout ce que le Père possède est à moi. Donc Jésus annonçait tout ce qui... Alors attention, là ça va être un peu compliqué. Je vais essayer d'être clair. Tout ce qui est au Père est au Fils. Comme peut-être vous avez ce rapport avec vos enfants, vous partagez tout. Votre enfant ne vous demande pas s'il peut prendre un verre d'eau ou servir de la télévision. Ce qui est à vous est à lui. Donc tout le monde se sert à la maison. Donc tout ce qui est au Père est au Fils. Et là Jésus dit, il y a le Saint-Esprit qui va arriver, il va prendre ce qui est à moi. Mais comme ce qui est à moi est au Père, c'est pour ça que je dis qu'il vous annoncera, parce qu'en fait il va prendre du Père. Vous voyez ? C'est pas clair, relisez-le tranquillement. Enfin voilà, c'est un peu voilà, la logique c'est ça, c'est que tout ce qui est au Père est appartient aussi au Fils, le Fils au Père, et le Saint-Esprit en fait en prenant à Jésus, il prend aussi au Père parce que ça appartient au Fils. Et il dit, c'est pour ça que je dis que ce qu'il prend est à moi parce qu'il vous l'annoncera. OK, j'arrête là, c'est un peu compliqué, j'en suis conscient, mais c'est dans la Bible. Tout ce que le Père possède appartient au Fils, mais appartient aussi au Saint-Esprit. Donc au tout début du verset, si tu veux revenir Samuel, verset 15. Voilà. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà. Non, c'est 13. Pardon. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, le Père a envoyé le Fils. Maintenant, le Fils s'en va. C'est le Saint-Esprit qui prend la relève. Mais qu'est-ce qu'il va annoncer ? Il va prendre ce qui était à Jésus, qui appartenait au Père. La boucle, c'est ça, en fait. Si j'avais un paperboard, je vous le ferais sur un petit schéma. En fait, l'histoire, c'est que les trois travaillent ensemble. Ce qui appartient au Père, Jésus l'a donné. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va prendre la relève. Voyez. Donc, il y a toujours ce travail collectif pour les trois. L'idée, le but, c'est quoi ? Eh bien, c'est de révéler la gloire de Christ aux hommes. Verset 14, si tu veux bien. Tout ce plan-là, c'est le Saint-Esprit révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Mais le but du Saint-Esprit, c'est de révéler aux hommes la gloire de Christ. Voilà, le but final. C'est d'annoncer Jésus-Christ, c'est de poursuivre son œuvre, finalement. Jésus a un ministère relativement court, il est mort, sa parole aujourd'hui vit encore, mais c'est par le Saint-Esprit aujourd'hui que sa gloire est annoncée, continue d'être annoncée. Donc, les trois travaillent ensemble, et les trois travaillent à notre sanctification. Le Père, lui, son rôle, au départ, il a fait connaître le péché. Il a donné la loi, il s'est révélé au peuple d'Israël en personne et il a fait connaître le péché. Voici la loi, Dieu fait connaître dans un premier temps le péché. Le Fils, lui, à son tour, il vient nous purifier du péché. Et le Saint-Esprit, c'est quoi son rôle ? C'est qu'il vient nous, le Père fait connaître le péché, le Fils purifie du péché, le Saint-Esprit, il va convaincre de péché. Voilà, regardez avec moi dans Jean 16, versets 7 à 8. Je suis conscient que c'est parfois un peu difficile, hein, c'est pas simple, hein, mais bon. Cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle, hein. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. On aurait bien aimé garder Jésus un peu plus longtemps, mais bon, voilà. Jésus dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, plan de Dieu au départ. Dieu crée le monde. Rupture à cause du péché. Dieu annonce déjà le plan de la réconciliation. Mais il y a malgré tout cette rupture, il y a le péché qui rentre dans le monde et très rapidement, Caïn va tuer son frère, etc. Et très rapidement, l'humanité sombre dans le chaos total. Dieu va envoyer la pluie pour tout raser. Il dit, c'est terminé, on va recommencer. Tout recommence avec une seule famille, Noé et ses enfants, et ses belles-filles qui vont redonner naissance à toute une humanité. Mais bon, le péché est toujours là, rien n'est réglé, donc on repart sur une humanité nouvelle, mais le péché continue d'être là. Et puis il y a cette révélation au peuple d'Israël, il se révèle comme le vrai Dieu à un peuple qui se choisit. Et puis il va leur dire, voilà ce qu'est le péché. Donc il leur fait connaître le péché, il leur donne une loi, il dit, voilà, si vous respectez cette loi, vous ne pécherez pas. Oui, alors quand on lit la loi, nous les premiers, on se dit, bon, là, dès la première ligne, c'est fini, quoi. Je peux pas tenir, c'est trop difficile. J'ai une nature pécheresse, un cœur pécheur, je suis dans la chair, c'est impossible. Donc Dieu fait connaître le péché. Mais il sait que l'homme ne peut pas se sauver tout seul, qu'il ne peut pas tenir le niveau de la loi trop exigeant pour lui parce qu'il n'est pas pur ni saint. Donc c'est Jésus qui est envoyé pour nous purifier du péché par sa mort sur la croix. Et une fois que Jésus est parti, eh bien il y a notre Saint-Esprit qui arrive en action, notre conscience qui nous dit « Ah, ce que tu fais là, c'est pas bien. » Et vous savez, même les non-croyants ont une conscience, hein. Vous savez qu'il y a des gens, alors lui on dit des sans conscience, sans scrupules. Hein. Il y a des personnes qui font la une des journaux, on se dit lui, mais... Mais ça, c'est l'exception. Mais la règle, c'est plutôt que les gens quand même ont une conscience. Quoi. Et ils savent que même s'ils volent un petit morceau de pain à la boulangerie, ils sont quand même un peu travaillés. Quoi. Il y a quand même le Saint-Esprit, il y a l'Esprit de Dieu qui règne quand même dans le monde, hein, qui est là pour, malgré tout. Hein. Le Saint-Esprit convient de péché. Voilà, par son action sur les croyants. Si on s'amusait juste à lire les versets 9 et 11, la suite, vous allez voir que là encore, il y aurait une autre mention de la Trinité, il y a encore un développement en trois points. Verset 9, en ce qui concerne le péché, parce que, alors si tu peux remettre juste le 8, qu'on ait la bonne transition. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc péché, justice, jugement. Premièrement, le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Le Saint-Esprit, il travaille en disant, attention, il faut croire. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Et troisièmement, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, je ne vais pas développer cette partie-là, mais on voit encore qu'il y a trois parties. Il y a encore un parallélisme trinitaire, il y aura encore des choses à développer dessus. Moi, je vais m'arrêter là parce que, voilà, pour ce matin, je vais juste résumer ce que j'ai dit. Mais si vous vous amusez un jour à prendre votre Bible et regarder toutes les mentions de Trinité ou les développements en trois points de Dieu, c'est quand même, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Et l'étude qu'on a fait avec les couples la semaine dernière, on se rend compte que dans le premier chapitre dans la Bible, on note tous les fameux parallélismes de Myra, c'est-à-dire un mot et un autre qui le complète ou qui s'oppose à lui. Prenez juste chapitre premier de Genèse, vous allez déjà en voir plus d'une quinzaine. C'est très très clair. Alors les développements en trois points, il y en a beaucoup aussi, qui montrent justement cette Trinité. Donc, c'est trois personnes, un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Trois personnes qui ont au moins un attribut dans le contexte qu'on a lu, c'est Jésus, c'était la grâce, le Père, c'était l'amour, et le Saint-Esprit, c'était la communion. Et ensuite, trois personnes, ils ont un seul plan, une seule œuvre. Les trois doivent être en nous, les trois travaillent ensemble, et les trois travaillent à notre sanctification. Voilà, c'est ce qu'il faudra déjà se rappeler. Ce sera déjà pas mal, mais vous en aurez déjà oublié peut-être un petit peu. Mais voilà, trois personnes, un seul Dieu, trois personnes, un attribut, trois personnes, une seule œuvre. C'est le plan du Seigneur et on se rend bien compte que Dieu est un Dieu d'ordre et pas un Dieu de désordre. Hein. Si on voit bien tout ça, on voit que Dieu, c'est bien structuré. Hein. Alors ce matin, c'était peut-être un peu... le plan il était peut-être un peu comme ça, mais c'est la logique de Dieu. Hein. Lui, Dieu, il est bam, 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 il est synthétique, hein. C'est très clair. Hein. Dieu, il est structuré, hein. C'est pas un Dieu de désordre, c'est vraiment un Dieu d'ordre, et on le voit dans ce qu'on a pu voir ce matin. Et je vous invite à présent à prier pour le bénir pour cela. Seigneur, en effet, lorsqu'on détaille ta parole, on voit à quel point, on sent ta pensée, Seigneur, qu'elle est profonde, mais qu'elle est structurée aussi, Seigneur. Tu n'es pas comme nous, Seigneur, qui parfois faisons des choses un peu de façon désordonnée. Toi, ton plan est bien pensé, Seigneur, est bien préparé et bien clair si on le détaille, Seigneur. Nous sommes émerveillés de voir comment tu avais tout prévu dès le départ, comment, Seigneur, tu avais tout planifié, comment tu as fait bien enchaîner les événements, Seigneur, et comment ton plan est merveilleux, Seigneur. Tu es en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous avons conscience, Seigneur, qu'ici-bas, nous ne pourrons peut-être pas bien comprendre toute cette image, cette réalité. Nous espérons le moment où nous serons devant toi, Seigneur, où tu pourras tout nous expliquer, et peut-être que notre nature alors nous permettra de le comprendre mieux aussi. Nous avons vu, Seigneur, aussi ces attributs qui caractérisent chaque point de ta personne. Tu es amour, notre Seigneur est grâce, et le Saint-Esprit nous conduit à la communion, Seigneur, aussi. Et il nous convainc de péché, Seigneur. Merci pour ton esprit, parce que aussi il nous reprend, Seigneur, et chaque jour nous avons besoin d'être pris. Enfin, nous avons vu, Seigneur, que tu es en trois personnes, mais que tu n'avais qu'un seul plan, Seigneur. Tu voulais notre salut, tu voulais que ton Fils soit annoncé, et que sa gloire soit encore annoncée aujourd'hui. C'est justement le rôle du Saint-Esprit, Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Aide-nous à bien le comprendre, Seigneur. Seigneur, ta parole aussi, parfois, est au-delà de notre intelligence, Seigneur, mais nous croyons aussi que tu l'as rendue accessible à nous. Seigneur, donne-nous la capacité, la sagesse pour bien la comprendre, bien la vivre, bien la mettre en pratique, Seigneur. Nous t'en prions et te le demandons en Jésus-Christ. Amen.